18h-19h, 100% Aiglon, l'émission.
Bonsoir à tous, bienvenue dans 100% Aiglon, saison 11, épisode 11. L'OGC Nice battu par l'Olympique de Marseille hier soir, l'Allianz Riviera. Plus de 30 000 spectateurs étaient là pour le derby de la Méditerranée. Pour revoir Balotelli aussi mettre un pied devant l'autre avec quelques kilos en moins et une bonne première période à livrer à l'image de toute l'équipe qui s'est fait punir par le réalisme phocéen. Nice est coincé en deuxième partie de tableau, 14e de Ligue 1 avant d'aller à Bordeaux dimanche. On vous attend au 04 93 82 03 04 pour débriefer ensemble ce match. Guillaume vous accueille au Standard. Et pour débattre de l'OGC Nice jusqu'à 19h, Patrice Alberganti, consultant France Bleu Azur, et Vivien Seller, journaliste de la rédaction, sont à mes côtés. Salut messieurs.
Bonsoir à tous.
Bonsoir à tous. Bonsoir Vivien. Bonsoir JB.
Et donc tout s'est joué en première période hier soir devant les caméras de nos confrères de Canal+. C'était l'affiche du week-end de cette 10e journée de Ligue 1. Match à 21h. Un seul but sur la seule frappe cadrée marseillaise juste avant la mi-temps.
Côté gauche qui va trouver Mario Balotelli, entraîné 16m50. Balotelli, la frappe enroulée, c'est au-dessus.
Ah, c'est bien.
La première mèche de Mario Balotelli, elle intervient à la 6ème minute de jeu. Ballon perdu par les Marseillais. Balotelli, la frappe de Balotelli, la parade de Steve Mandanda dans ses 5m50 pour repousser ce ballon de Mario Balotelli. Mario qui est chaud, Patrice, on le sent.
Il est chaud Mario. Dès qu'il peut se mettre en position de frappe, il le fait. Là, il a mis vraiment Steve Mandanda rue des Fins.
Saint-Maximin n'est pas en jeu face à Mavi. Il est passé Saint-Maximin dans sa zone de réparation. Saint-Maximin pour Balotelli. Oh, le sauvetage, le sauvetage, le sauvetage de Bounassar devant l'Italien. Il va récupérer la balle, Bounassar, côté droit, le centre à venir, à ras de terre, attention Sanson pour allumer la frappe et le but. L'ouverture du score marseillaise, 41e minute de jeu.
On est mal positionné, on est très mal positionné.
1-0 pour l'OM.
Les Marseillais sont seuls, là il y a deux Marseillais seuls complètement dans l'axe, dont Sanson qui récupère ce ballon.
On a fait jeu égal contre une très bonne équipe de Marseille, on leur a posé des problèmes, mais malheureusement on n'a pas su marquer ce but dans nos moments forts. Et eux ils ont eu cette occasion et ils ont eu plus de réussite que nous.
Ben, on joue bien, on arrive bien à jouer au ballon, mais je pense que le plus important c'est les 30 derniers mètres. Et c'est là où on pêche, c'est là où on a besoin de beaucoup plus de présence devant le but. Et sincèrement, quand je regarde comment Marseille a joué, on n'a rien à leur envier. Mais comme je viens de le dire, ils ont su être plus efficaces que nous. Après, c'est ça, ils ont marqué un peu avant la mi-temps. Et après, ça a été très difficile pour nous de revenir au score.
France Bleu Azur, 100% Aiglon, le débrief.
Ouais, finalement, le meilleur de cette première période, en tout cas les plus belles actions. Parce que franchement, en seconde période, Patrice, on s'est plutôt ennuyé. Hier soir, l'Allianz Riviera, on a entendu aussi les réactions de Patrick Vieira, l'entraîneur du gym, et d'Alan Saint-Maximin. Il l'a dit, Alan Saint-Maximin, on l'a un peu en travers de la gorge parce que c'est vrai que Nice ne méritait pas, en tout cas, de rentrer au vestiaire en étant mené 1-0.
Ouais, mais c'est, si tu veux, c'est à l'image de leur début de saison. Hein. On domine des matchs, on n'arrive pas à concrétiser. Là, on fait une très bonne première mi-temps aboutie. Vraiment, on a des temps forts intéressants, on n'arrive pas à concrétiser. Et derrière, on se fait punir, malheureusement. C'est le football, mais je trouve qu'il y a un truc qui est récurrent dans cette équipe de l'OGC Nice, c'est qu'en deuxième mi-temps, on a toujours. Je pense qu'on a un problème vraiment physique dans cette équipe. En deuxième mi-temps, on s'effondre un petit peu, on sait plus trop comment faire et derrière mentalement et moralement on n'arrive pas à reprendre le dessus. C'est dommage parce qu'il y avait vraiment les ingrédients pour remporter ce match à la mi-temps.
Et Marseille a fait la différence ensuite à l'expérience, hein, Vivien Seller, hein, cette équipe, même si elle était privée de Luis Gustavo, d'Ocampos et de Thauvin, le meilleur buteur, et bien voilà, les Marseillais ont géré ensuite.
Ouais, à l'expérience, au métier, je pense qu'ils n'étaient pas capables de faire beaucoup plus, mais ils ont été réalistes sur leur seule frappe cadrée, je crois. Après, ce qui me dérange, c'est un petit peu les discours Saint-Maximin, Vieira, on a fait jouer égal, on n'a pas à rougir, ouais, bon, ok, mais c'est pas en se contentant de ça qu'on va aller beaucoup plus loin. Et comme le dit Patrice, il y a peut-être un problème physique sur les secondes périodes. Et hier, je trouve qu'il y a quand même aussi un problème on dit souvent de grinta, surtout pour un derby. Il y a des confrères qui disaient, on a l'impression que Nice a perdu un match amical, quoi. Il y a au moins au début de seconde période où le coup de moins bien physique ne doit pas encore être arrivé dans les jambes, mais dans les têtes niçoises. On n'a pas senti les Niçois essayer de mettre le feu. Voilà. On a l'impression qu'on se contente de peu et sur 4 défaites à domicile, Nice n'a pas marqué un but. Les seuls buts à domicile marqués par le gym, c'était la victoire face à Rennes. Donc, c'est trop peu pour espérer mieux dans ce championnat actuellement.
Mais justement, Patrice, que peut-être que ça devient pas mental, le gym fait un début de saison galère, on le sait, avec des prestations à domicile très délicates, 4 défaites, seulement une victoire. Peut-être que aussi ce but a fait très mal dans les têtes niçoises à la mi-temps et qu'au retour des vestiaires, eh bien, il manquait ce petit truc en plus.
Ouais, tu dis, c'est une mentalité après, un état d'esprit. Mais je pense qu'on ne doit pas se contenter de ça. On en devient fataliste, on dit voilà, l'OGC Nice est une bonne équipe, on manque concrétiser nos actions dans nos temps forts et derrière ça suffit. Non, ça suffit pas, le football c'est pas ça, c'est tu perds 1-0, tu te mets le cul par terre pour revenir, et comme le dit Vivien, j'ai pas vu une équipe courageuse avec de l'envie derrière, qui a su mener la dragée haute à cette équipe, qui a su répondre aux duels physiques et qui a su remporter ces duels physiques. Voilà, je trouve qu'on est fataliste, on se dit bon, ben ça va venir. Ouais, mais le problème c'est qu'une saison, c'est long, certes, mais il faut que ça vienne assez vite parce que sinon tu vas commencer à galérer et te retrouver dans une situation un peu compliquée. Donc j'ai envie de voir un état d'esprit, des joueurs revanchards, des joueurs qui ont envie de se... Je me rappelle l'année dernière ce match à Toulouse qui avait été salvateur pour l'équipe. Ouais. Il nous manque ça. Il nous manque un match référence où on se met à 11 contre 11 et on se met le cul par terre pour gagner des matchs, même s'il n'y a pas la manière, on s'en fout. Il faut marquer ses buts, il faut commencer à en prendre vraiment conscience.
Une saison est longue, c'est vrai, mais on est déjà au quart du championnat, un 10e journée de passé, il y a 38 journées en Ligue 1, donc le gym est encore en difficulté. On ira voir Daniel et Renaud qui nous appellent au 04 93 82 03 04, mais juste un petit message sur la page Facebook France Bleu, parce que nous suivez aussi également en live vidéo. Alexandre nous dit, Nice qui perd contre Marseille, moi qui n'a pas réussi mes écrits au concours d'accès à l'école d'avocat, dure journée pour moi. Voilà, Alexandre qui a la tête dans le seau, comme les Aiglons en ce moment. On vous attend pour parler du gym, notamment de ce match contre Marseille. On parlera aussi de Mario Balotelli qui a effectué son retour après 3 semaines de compétition.
Les actus, les polémiques, les analyses. 18h-19h, 100% Aiglons, l'émission. France
Bleu. Tous les jours, votre radio dans les Alpes-Maritimes vous raconte ce qui se passe près de chez vous et vous donne également toute l'info nationale et internationale. France Bleu Azur, numéro 1 sur l'info dans votre ville.
Chaque jour, des événements changent le cours de votre vie. Des situations parfois à risque pour vous-même ou pour les autres. Pour vous aider, vous avez besoin d'un professionnel. Ce professionnel, c'est votre agent général d'assurance. Il est à vos côtés face aux aléas et vous conseille dans vos projets. Car votre histoire, c'est aussi notre histoire. Agent général d'assurance, on assure mieux quand on connaît bien.
18h-19h, 100% Aiglon, l'émission.
Avec Vivien Seller de la rédaction de France Bleu Azur et Patrice Albergantui, consultant France Bleu, nous accueillons Daniel qui nous appelle depuis Lyon. Daniel, bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue dans 100% Aiglon. Vous êtes quoi, un Niçois expatrié à Lyon ou un Lyonnais qui est devenu fan du gym?
J'ai deux clubs de cœur en France.
Ce sont lesquels?
Vous? Normal,
c'est Nice, ouais.
Et Saint-Étienne.
Bon. Ah oui, je me rappelle.
Pour Lyonnais, c'est pas mal.
Pas très copain, ouais. Vous avez appelé la semaine dernière, je me rappelle. Ouais, tout à fait. Bon, dites-nous, voilà, quel est votre sentiment après ce match contre Marseille?
Je suis sur le club quand même. Hein.
C'est bien, la fidélité, c'est important.
Ce que je suis déçu, c'est qu'on marque pas beaucoup à domicile et on sait que les points se jouent beaucoup à domicile. Et moi, maintenant, je suis en train de regarder même le calendrier et même la fin de l'image. Donc à la fin du match, on va aller à Paris, à Saint-Etienne, il y a Monaco qui sera encore meilleur. J'ai en train de regarder maintenant la fin du championnat, qui me fait peur maintenant.
Alors on est loin encore, mais c'est vrai qu'on jouera à Paris notamment, on jouera à Saint-Etienne, on jouera à Monaco.
On va à Saint-Etienne et Monaco qui sera plus de même. Hein.
Bon, il y a encore du temps quand même d'ici là, Daniel, mais en tout cas, il y a quelque chose que vous dites, c'est vrai que...
On prend pas beaucoup de points à la maison et on a marqué que 2 buts.
Vivien Seller, c'est vrai que ça a été une force du gym ces dernières années, déjà sous Claude Puel, parce que en fin de saison avec Claude Puel, le gym était invaincu, une série qui s'était poursuivie avec Lucien Favre. Bon, il y avait eu quelques petits accros, mais le gym a été troisième dès la première année de Lucien Favre. Et c'est vrai que déjà l'an dernier, on a vu ce manque d'efficacité à la maison. Cette citadelle imprenable qui était l'Allianz Riviera ne l'est plus désormais, et ça pèse très clairement.
Ouais, c'est vrai, et quelqu'un me soufflait hier après le match, il y a 1 ou 2 ans, quand le gym tournait bien, on pouvait se dire, bon, c'est pas grave, on a pris un but, enfin, les joueurs pouvaient se dire on a pris un but, ça va tourner, on sait qu'on aura les occasions, on sait qu'on arrive à être dangereux et à marquer.
Là, c'est ça, les occasions là.
Voilà, là c'est plus tout le cas et prendre un but relève du défi. Après, côté niçois, pour retourner le scénario du match, ça a été le cas. Nice a su faire preuve de caractère à Nantes, je crois, si mes souvenirs sont bons. Nantes égalise et Nice arrive à repasser devant, mais c'est la seule fois et on en parlait tout à l'heure avec Patrice Orantaine. Je trouve que ça manque de cadre pour encadrer tout ça. Il n'y a pas assez de joueurs peut-être pour un peu sonner la révolte et dire allez, on y va, même si Patrice répondait tout à l'heure que c'est des joueurs professionnels, évidemment ils sont conditionnés et c'est aussi à eux de se bouger, mais je pense malgré tout que ça manque de joueurs d'expérience, hormis Dante et Jallet qui jouent assez peu. Sinon il n'y a pas assez de joueurs pour encadrer et voilà, pour pousser les plus jeunes peut-être à se faire un peu plus violence. Et c'est vrai qu'en deuxième mi-temps, le gym aurait pu jouer 12 mi-temps et n'aurait pas eu un but marqué par l'OGC Nice, parce qu'il n'y a même pas d'action ou très peu d'action dangereuse. En tout cas,
Daniel, est-ce que vous êtes inquiet là aujourd'hui? C'est que la 10e journée de Ligue 1, mais c'est vrai qu'on voit que le gym...
Les matchs, c'est-à-dire que si on ne fait pas le trou avant, les 4 derniers, ça sera le plus dur. Hein. Parce que gagner à Paris, je ne crois pas, gagner à Saint-Étienne, je ne crois pas, et Monaco, ça se peut qu'ils seront revenus là, ici. Hein.
En tout cas, c'est vrai qu'il y a encore du temps d'ici cette fin de saison, mais pour l'instant.
Je vous pose une question.
Dites-nous.
Ça c'est hors Nice, hors championnat, hors de toutes les équipes. Bon, après 10 journées de championnat, vous ne trouvez pas ce que sur le championnat, des équipes comme Lyon qui a 16 points, les autres 15, 14 points. C'est vraiment faible. Hein. J'ai l'impression que personne ne prend des points. Hein.
C'est vrai. Alors, c'est intéressant ce que vous dites, Daniel. On en parlait d'ailleurs, et Patrice, c'est peut-être ce qui nous rassurait, entre guillemets, parce que c'est vrai que, mis à part le Paris Saint-Germain qui est totalement en roue libre,
je pense qu'il en fallait un peu.
C'est vrai que c'est homogène derrière, Patrice. Si on gagne, admettons, on gagne là, contre Bordeaux, le week-end prochain, on chiffre la place aux Bordelais qui sont 8e aujourd'hui. C'est assez serré et homogène.
C'est assez serré parce qu'on a, on a vu que le championnat s'est nivelé. On a eu des équipes qui sont sensiblement, de la même catégorie, hein. Depuis des années, on le dit, il y a deux championnats dans ce championnat.
Et ça se dégage pas derrière.
Ça se dégage pas parce qu'on est tous à peu près, dans les mêmes conditions au niveau des effectifs. Tu as pas de grosses équipes, c'est à part Paris. Après, derrière, tout le monde a sa chance pour jouer, on va pas forcément dire le podium, mais parce que je pense que des équipes comme Lyon, voilà, seront encore présentes. Marseille sera certainement dans le trio de tête, je pense, mais voilà, c'est parce qu'ils ont des gros vécus, ils ont une grosse expérience. Après, derrière, c'est que des équipes qui sont capables, on l'a vu l'année dernière, qui a fini 4e, qui a fini 5e, donc, c'est un championnat ouvert, ça s'est nivelé, pas forcément vers le haut, peut-être un peu plus vers le bas, mais voilà, c'est ce qui explique cela.
Même s'il y a des stars dans ce championnat de France, hein, Vivien, notamment au Paris Saint-Germain.
Ouais, mais il y a même pas que les stars. Moi, je trouve que dans l'ensemble, c'est peut-être de plus en plus homogène. Mais en général, les équipes qui montent de Ligue 2 essayent de plus en plus de jouer. Je me souviens, il y a quelques années, on reprochait à Angers de jouer défensivement avec ses forces sur coup de pied arrêté. Alors, premièrement, les équipes jouent avec les caractéristiques du groupe et des joueurs que le coach a sous la main. Mais les équipes essaient de plus en plus de jouer au ballon. Quand Dijon était monté, ça essayait de jouer au ballon. C'est encore le cas. Ce qui est compliqué pour ces équipes-là, comme Dijon ou Reims, qui ont fait un bon début de saison, c'est de tenir la cadence. Ils n'ont pas forcément le banc de touche pour suppléer un ou deux joueurs blessés potentiellement. Suspendu, ouais. Voilà, il suffit que ce soit des cadres ou comme à Dijon, Tavares qui est le buteur. Mais voilà, quand t'as une équipe comme Dijon ne peut pas compter sur son meilleur joueur, c'est dur de tenir la cadence. Donc forcément, après, de rester dans le coup pour la suite de la saison.
Merci en tout cas, Daniel, de votre appel depuis Lyon et restez-nous fidèles à France Bleu Azur et restez fidèles évidemment à l'OGC Nice. En tout cas, on viendra vous rendre une visite avec plaisir en deuxième partie de saison au stade Geoffroy Guichard.
100% Aiglon, toute l'actualité de l'OGC Nice.
Parce que Daniel est lyonnais, mais fan des Verts. Renaud de Nice nous appelle. Salut Renaud.
Bonsoir Jean-Baptiste, bonsoir Patrice, bonsoir Olivier.
Salut Renaud. Bon, quel est ton sentiment sur ce match hier, le derby de la Méditerranée, voilà, perdu par les Aiglons 1-0, avec, encore une fois, on se dit, on se répète, mais ces stats sont assez folles. Hein, une frappe cadrée et un but pour l'OM.
Ben, moi, je suis assez inquiet parce que par rapport à... On fait une bonne première mi-temps, je vous en prie, Patrice, là-dessus. C'est vrai qu'on a quand même quatre occasions assez nettes et ce qui peut peut-être changer le cours du match. Mais derrière, on peut prendre un but, ce qui arrive malheureusement très souvent depuis le début de saison. Mais un but, c'est pas la fin en soi. Et surtout, on est dans un derby, c'est Nice-Marseille qui plus est. J'ai pas du tout compris que les joueurs n'aient pas réussi à mettre plus d'envie, même si c'est même que ce soit plus brouillon, mais qu'il y ait au moins de la grinta, qu'il y ait de l'envie, là on n'a rien vu, on a passé une deuxième mi-temps à chercher et à essayer d'entrevoir une lueur, mais elle n'est jamais venue, hormis peut-être la frappe contrée de Dante sur le corner, ouais. Donc c'est beaucoup trop faible, et par rapport à ce que j'ai dit aussi, c'est vrai qu'on a cette équipe, elle manque de caractère aussi, parce qu'il n'y a personne pour vraiment haranguer les jeunes et montrer un peu le chemin. Là, on est vraiment spectateur, on est attentif, on dirait que dès qu'on prend un but, ça y est, c'est la fin, contrairement, c'est vrai, aux années précédentes, où on sentait toujours qu'il y avait moyen de revenir au score, de recoller, ouais. On avait une certaine assurance, mais là, c'est vrai que comme depuis le début de saison, on n'est pas bien, forcément, ça rejaillit sur le groupe.
Vivien.
Je trouve que Renaud a dit quelque chose de très juste. Il a dit un but encaissé, c'est pas une fin en soi. En théorie, oui, mais le problème, c'est qu'on a l'impression, et j'espère que c'est pas le cas, on a l'impression que dans les têtes niçoises, c'est un petit peu une forme de résignation. Et hier, Nice s'est arrêté de jouer. Alors, on va dire avant la mi-temps, mais marque très peu de temps avant la mi-temps, je crois. Donc, en début de seconde période, certes, un but avant la mi-temps, c'est jamais l'idéal dans les têtes, mais Nice faisait quand même vraiment une première mi-temps intéressante. Et moi, je m'étais fait la remarque. Alors, ça n'engage que moi, mais je me disais, on a l'impression que Nice a franchi un palier dans le jeu. C'est un peu plus ambitieux. Il y avait plus de prise de risque. Tamézier se projetait notamment. Et voilà, il y a une forme de résignation, et c'est ça qui est inquiétant, c'est que sur 45 minutes, on n'a pas vraiment senti de folie, d'envie d'aller presser et mettre le danger sur le but marseillais.
Merci Renaud de ton appel. Reste avec nous juste parce que je vois aussi sur la page Facebook de France Bleu Azur, on nous dit bravo à Attal pour sa débauche d'énergie, même si c'est un peu brouillon comme Saint-Maximin. Il y a aussi d'autres messages, notamment Alexandre qui nous dit je n'ai pas envie de faire une généralité, mais les trois fois où Jallet a été titularisé cette saison, on a gagné. C'est le Benjamin Pavard de Nice, à savoir le porte-bonheur, nous dit Alexandre, même si c'est lorsque Christophe Jallet est sorti contre Rennes que le gym s'est finalement imposé. Il y a aussi un message. Reste avec nous, Renaud, parce qu'on va débattre aussi avec les auditeurs. Il y a Paul qui nous appelle depuis Saint-Paul-de-Vence, j'imagine. Paul, bonsoir.
Bonsoir.
Je crois que vous voulez parler des milieux de terrain. Et il y a beaucoup de réactions aussi sur la page Facebook qui nous parlent du milieu de terrain niçois.
Ça s'est vu comme le nez au milieu de la figure. Hein, on sait qu'il nous manque un numéro 6 depuis que Seri est parti. On sait qu'il nous manque un numéro 10. Ça, c'est pas nouveau, il n'y a pas de souci. Mais c'est là que je pense, hein, je reste à mon niveau, mais c'est là qu'on voit les problèmes d'avoir un club qu'on appelle tirelire. C'est-à-dire que les gars, ils préfèrent acheter des jeunes joueurs pour pouvoir les revendre beaucoup plus cher et encaisser de l'argent, plutôt que, regardez, avec Maolida, ils ont mis 10 millions sur ce joueur qui devrait plutôt aller prendre de la confiance en réserve. Et au final, qu'est-ce qu'on voit? Ben, on n'a pas pris Ben Arfa, qui aurait pu stabiliser tout le milieu de terrain, qui aurait pu faire des choses bien meilleures, et c'est le problème du club tirelire. Voilà. On met des joueurs, des jeunes, on espère qu'ils vont progresser pour les revendre très cher, et en attendant, on progresse jamais. On progresse pas comme Rennes, comme Saint-Etienne. Et voilà.
Alors Rennes progresse pas franchement si on regarde les débuts de saison du Stade Rennais, mais ouais, pour en revenir sur Ben Arfa, voilà, c'est lui aussi qui a choisi Rennes, il a expliqué maintes et maintes fois le projet, etc.
Mais c'est 50 000 de plus et vous verrez qu'il serait venu à Nice.
Ouais.
Et c'est toujours une question d'argent. Et on met 10 millions pour Maouida et on n'est pas capable de mettre 50 000 pour faire venir un gars qui va vous stabiliser toute l'équipe. Pas un peu, toute l'équipe.
Alors Patrice, pour réagir à ce que nous dit Paul sur le milieu de terrain, il y a aussi une réaction sur Rémi nous dit Pierre Lespinou a manqué par exemple aussi sur un match hier.
Ouais, complètement. J'allais en parler justement par rapport à ce milieu de terrain. C'est vrai que Pierre a cruellement manqué. Après, il faut se mettre dans la tête que ce que nous produisons au milieu de terrain il y a quelques années, ça va être compliqué de le retrouver. Le problème, c'est que on parie sur l'avenir en prenant des joueurs pour rejoindre ce que dit Paul. Et je reste persuadé que c'est des joueurs de talent. Ceci étant dit, les joueurs qu'on attend, qui font office de joueurs entre guillemets cadres, ne sont pas au niveau. Par exemple, au milieu de terrain aujourd'hui, Cyprien n'est pas du tout au niveau. Il n'apporte vraiment pas ce qu'il devrait apporter dans ce milieu de terrain pour justement tirer ce milieu de terrain vers le haut. Ce qu'il était capable de faire avec Jean-Michel Seri, par exemple, il est incapable de le refaire maintenant. J'ai l'impression que en début de match, Willian Cyprien, j'adore ce joueur. Attention, hein, je critique pas quoi. Mais j'ai l'impression que Willian Cyprien, il est un peu perdu.
Oui,
il sait pas trop où il doit se positionner. Le seul joueur qui me fait un petit peu impression dans ce milieu de terrain cette saison, c'est Tamézé, qui prend du temps de jeu, qui prend de la confiance et qui apporte vraiment quelque chose. Après, je pense que on a un vrai problème de confiance et on a un vrai problème de se dire l'exigence envers soi-même. Quand tu es footballeur professionnel, que tu es footballeur de haut niveau, tu dois avoir l'exigence du haut niveau. Et dans des prises de décision et dans des prises de choix, je trouve pas que dans cette équipe, même si c'est des jeunes joueurs, ils ont l'exigence du haut niveau. Ils ont l'exigence de faire la différence. Je pense à Alain Saint-Maximin qui est un joueur qui est détonateur aujourd'hui. Oui. C'est un joueur sur lequel on peut s'appuyer. Bien parce sûr. Qu'on s'appuie sur un joueur comme Alain Saint-Maximin aujourd'hui, qui devrait pas forcément être un joueur sur lequel on s'appuie. Que sur celui-là, je parle. Mais aujourd'hui, Alain Saint-Maximin, il fait des choses très bonnes, mais l'exigence du haut niveau lui demande de faire le dernier geste, la dernière passe de meilleure qualité. Il le fait pas. Il se contente de faire ce qu'il sait faire et il passe pas un palier. Il passe un palier dans le sens où il a compris qu'au milieu de terrain, il fallait qu'il donne des ballons, mais sur des choses bien déterminées, il passe pas un palier. Donc, si tu veux, c'est tout ça mis bout à bout, c'est une équipe qui va mettre du temps à vraiment s'imposer.
Renaud, un garçon comme Pierre Lesmelou, qui est très souvent décrié, notamment par une frange du supporter niçois, c'est un garçon qui a manqué, par exemple, hier soir face à l'OM?
Oui, je pense qu'il aurait pu apporter parce que sa touche technique, et puis au milieu de terrain,
il
lâche rien, il est toujours. Il mouille le maillot, donc oui, moi je pense qu'il a manqué effectivement. Mais dans la configuration depuis deux matchs, il fait jouer Maolida un peu en 10 derrière. Moi j'avais un petit peu peur parce que Cyprien est amaisé. C'est vrai que je trouve ça un peu léger, hein, pour être honnête. Un milieu à trois travailleurs, je trouve que dans la configuration où on est actuellement et dans l'optique où aussi qu'il faut qu'on prenne des points, je pense que pour pourquoi il ne tenterait pas de revenir peut-être à 4 avec un Jallet à droite et pourquoi ne pas essayer Attal un cran plus haut avec sa maximum de l'autre côté.
Youssef Attal qui était de formation un milieu de terrain ou plutôt offensif d'ailleurs, hein, qui est déjà, on le voit parfois sur le terrain, notamment lorsqu'il était aligné sur le côté en défense, parfois il a un petit peu de mal à faire les courses de reprise, de retour.
Juste pour te faire très court par rapport à ce que je rebondis pas, ce que dit Renaud, ce qui est important aussi par rapport à l'année dernière, c'est que l'année dernière, le premier rempart c'était Alassane Pléa. On s'aperçoit pas ce que faisait ce joueur aujourd'hui. Saint-Maximin et Balotelli ne le font pas. Même Maoulida ne fait pas les efforts que faisait Alassane. Et Alassane et Pierre Lesmenou, associés l'année dernière, c'était le premier rempart défensif de cette équipe de l'OGC Nice. Aujourd'hui, le milieu de terrain est vraiment livré à lui-même quand, malheureusement, la ligne d'attaque est de 3 est dépassée. Dès qu'il y a une passe qui franchit cette ligne, c'est très compliqué derrière.
Merci Renaud, merci Paul également de vos appels dans 100% Aiglon. Vous êtes les bienvenus, 04 93 82 03 04. Après les infos des 8h30, on reviendra sur la prestation de Mario Balotelli qui a retrouvé la compétition après 3 semaines sans jouer. Mario qui est apparu beaucoup plus affûté avec quelques kilos en moins. Qu'avez-vous pensé de la prestation de l'Italien? Vous nous appelez 04 93 82 03 04.
18h-19h, 100% Aiglon, l'émission.
Avec Julien Célère, la rédaction de France Bleu Azur, avec Patrice Alberganti, on vous attend pour débattre avec vous de l'OGC Nice. On parlera donc de Balotelli juste après les infos et aussi du déplacement à Bordeaux, parce que les Aiglons seront en Gironde dimanche. Les Bordelais qui joueront un match d'Europa League cette semaine du côté du Zénith Saint-Pétersbourg.
100% Aiglon, toute l'actualité de l'OGC Nice.
7h30, après l'info et la météo de la Côte d'Azur, commencez la journée par un sourire.
Je vous survivrai pour encore un an.
Tous les jours, une personnalité différente réagit à l'actu.
Alors cette chronique est la seule chronique remboursée par la Sécurité sociale.
À demain avec Hassan de Monaco.
Parce que faire la radio pour le 6-9h sur France Bleu Azur, si on l'a jamais fait, on peut pas comprendre.
Votre radio du matin, c'est France Bleu Azur.
Radio France, partenaire de Plus de Vie.
Bonjour, c'est Yves Dutheil. Au soir de la vie, on aimerait prendre son temps. Partager la sagesse que la vie a posée dans nos mains. Sérénité et apaisement pour nos aînés, c'est ce que propose Plus de Vie. Leur donner un peu, c'est transmettre beaucoup, beaucoup plus de vie. Améliorer le quotidien des personnes âgées à l'hôpital, faites un don sur plusdevie.fr. Merci.
Toutes les informations sur radiofrance.fr.
Comment les entreprises peuvent-elles se préparer au passage au prélèvement à la source en janvier? Réponse avec Marie-André de la mission Prélèvement à la source dans un instant.
France Bleu Azur. France Bleu. 18h-19h. 100% Aiglon. L'émission.
Allez, rejoignez-nous. On parle de l'OGC Nice jusqu'à 19h. C'est comme ça tous les lundis soirs dans 100% Aiglon. Alors, on parle aussi un petit peu, on va le faire en 30 secondes, c'est vrai, du comportement de certains Marseillais, notamment de Jordan Amavi, l'ancien Niçois. On se demande s'il ne peut pas prendre rapidement aussi un sacré carton jaune. Patrice, on se rappelle qu'il avait déjà été rugueux lors du match de la saison passée. C'est vrai que Jordan a encore été assez costaud. Et on parle aussi peut-être d'un pénalty oublié sur Ganago en seconde période. Voilà, peut-être pas non plus été aidé par l'arbitrage hier, même s'il ne faut pas se réfugier derrière ça, mais ça a manqué un peu, ça peut compter.
Ouais, Jordan, je l'avais souligné en début de match. J'avais dit l'année dernière, il avait mis les pieds. Il a mis de l'agressivité dans ses contacts. Il a réitéré cette année sur ce match-là la même prestation. Il a mis de l'agressivité. Personne n'a su répondre à ce duel-là. Je veux dire, enfin, je veux pas dire ce que bon, à mon époque, je pense qu'il y aurait eu un peu plus d'envie sur Jordan Amavi et en règle générale sur les Marseillais, sans dire qu'il fallait leur mettre les pieds, mais en disant voilà, l'agressivité, ça fait partie d'un derby. L'agressivité, quand tu veux gagner des matchs, tu dois la mettre en place. Donc aujourd'hui, on n'a pas ces leaders agressifs, tu vois, dans le bon sens du terme, toujours, hein, qui vont tirer l'équipe vers le haut parce qu'on voit qu'on est moins bien et qu'on a besoin justement de ça pour se remettre dans le match. Mais c'est vrai que l'arbitrage vidéo, elle a été mise en place pour les Marseillais, mais elle n'a jamais été mise en place une fois pour les Niçois, parce qu'il y a eu deux actions un peu litigieuses.
Surtout que je donne un corner après
sur Mario,
de mémoire,
hein, sur Mario qui se fait complètement ceinturé par un défenseur, par Ibokan, et sur l'action de Ganago. Mais je pense qu'il y aura plus d'arbitrage vidéo sur l'action de Mario Balotelli.
Ouais, c'est vrai qu'il a été ceinturé.
Donc ça a été oublié, ça c'est un peu dommage.
Pied arrêté. Allez, on vous attend pour parler de Mario Balotelli. 100% Aiglon, c'est jusqu'à 19h.
100% Aiglon, toute l'actualité de l'OGC Nice.
Pour l'heure, il est 18h30, l'essentiel de l'actualité en ce lundi soir avec Marion Chantreau.
Et le président de la République en visite dans l'Aude ce lundi, le département sinistré par les inondations meurtrières des intempéries qui ont fait 14 morts. Emmanuel Macron annonce qu'au moins 80 millions d'euros seront débloqués par l'État dans les prochains jours pour soutenir les communes. Une trentaine de techniciens volontaires du département des Alpes-Maritimes spécialisés dans la gestion après les catastrophes naturelles sont partis cet après-midi à Trèbes pour aider à la reconstruction et déblayer le terrain après les dégâts. Près de 300 personnes ont participé à une marche blanche cet après-midi à la Trinité au nord de Nice. Trois jours après le décès du jeune Femi, 21 ans, à l'hôpital de Nice, il avait été interpellé l'après-midi même par des vigiles de l'hypermarché Auchan alors qu'il tentait de dérober une bouteille d'alcool. Femi avait des problèmes de santé. Une enquête est ouverte pour déterminer les causes de sa mort. 5000 euros d'amende requis contre Cédric Herrou dans le procès qui l'oppose au préfet des Alpes-Maritimes. Ce procès se tenait cet après-midi devant le tribunal correctionnel de Nice. Le préfet poursuit le militant de la vallée de la Roya, défenseur des migrants, pour injure publique. Le représentant de l'État n'a pas apprécié en juin dernier la comparaison faite par Cédric Herrou sur Facebook du traitement des migrants avec celui des Juifs sous l'occupation. Le jugement a été mis en délibéré au 13 décembre. Les personnes ayant séjourné au moins une nuit dans le sud-est de la France sont privées de don du sang pendant 28 jours. Ça concerne entre autres les Alpes-Maritimes et Monaco, et ce à cause du virus du Nil occidental qui sévit depuis le mois d'août sur l'arc méditerranéen. Toutefois, les habitants du 06 qui veulent donner leur sang le peuvent, puisque dans le département, l'établissement français du sang précise qu'un test est effectué sur les donneurs. D'ailleurs, à partir de demain et jusqu'à vendredi, est organisée une collecte de sang à Nice Place Masséna en partenariat avec France Bleu Azur et l'OGC Nice. Des joueurs de foot seront présents et feront gagner notamment des places pour le match Nice-Lille le week-end du 24 novembre.
Merci Marion, et on en reparlera tout à l'heure de cette initiative de l'OGC Nice dans 100% Aiglon. Le prochain rendez-vous avec l'info, ça sera France Bleu soir à 19h. La météo avec Daria Bonin.
Votre météo pour ce soir et demain, l'absence du nuage la nuit permet de voir clairement les étoiles, le vent est faible, les températures minimales sauf sur le Haut-Var et le Haut-Verdon de 12 à 15 degrés. Pour demain, la journée va se dérouler sous un ciel clair, ce n'est qu'en toute fin de journée que quelques nuages vont venir prendre un petit peu de place dans le ciel. Le vent de sud-ouest est assez faible, les températures maximales de 15 à 18 degrés et de 21 à 22 degrés près du littoral.
18h33 sur France Bleu Azur, on fait la route ensemble. Rien de particulier à signaler à Nice, à Cannes ou encore sur les routes départementales selon nos correspondants. En revanche, sur l'autoroute A8, quelques ralentissements à vous signaler en ce lundi soir. Vous êtes ralenti en direction d'Aix-en-Provence entre les sorties 46 Villeneuve-Loubet et 44 Sophia-Antipolis. Un petit peu plus loin, vous freinez également entre l'échangeur 44 Antibes et la sortie 41 La Boca. Dans l'autre sens, en direction de Monaco, ralentissement habituel entre l'échangeur Nice-Saint-Isidore et la sortie Nice-Quartier-Nord. Si vous constatez une autre difficulté, vous nous appelez 04 93 82 03 04. On fait la route ensemble.
18h-19h, 100% Aiglon, l'émission.
Avec Patrice Albert-Grantier, consultant France Bleu Azur, et Vivien Seller, journaliste de la rédaction de France Bleu, parlons messieurs de Mario Balotelli qui a fait son retour hier soir face à sa victime préférée d'ailleurs, l'Olympique de Marseille. C'était 5 buts en 4 matchs avant hier. Bon, désormais c'est toujours 5 buts, mais en 5 matchs. Balotelli a éloigné des terrains pendant 3 semaines, qui s'est refait une santé physique. Comment tu l'as trouvé, Vivien?
Ben, je l'ai trouvé à l'image de l'équipe, ou j'ai trouvé l'équipe à l'image de Balotelli, ça dépend de quel côté on se place, mais plutôt volontaire en première mi-temps. Il a décroché, il a tenté des choses. Là, même la première frappe un peu qu'il essaie d'enrouler et qui passe bien au-dessus, c'était peut-être même un peu présomptueux, mais voilà, il y avait de l'envie. J'ai souvenir aussi à un moment donné où il perd le ballon côté gauche, il traverse tout le terrain pour aller presser côté droit. C'est assez rare pour le souligner pour Mario Balotelli, même si pour d'autres joueurs ça paraît naturel. Voilà, il y avait une vraie volonté. Il a deux belles actions avec cette frappe boxée sur le côté par Mandanda et cette belle ouverture de Tamézé, je crois. Voilà, il a la conclusion et il conclut plutôt bien, même s'il pouvait mieux faire parce que ça n'a pas fini au fond. Voilà, il y avait de l'envie, de la volonté, et à l'image de l'équipe, comme je le disais, il s'est arrêté de jouer, il s'est agacé, il a quand même essayé de dézoner un petit peu, mais c'est transversal, manquait un peu de conviction, il perdait le ballon, il s'arrêtait. Voilà, on a retrouvé le Mario de ce début de saison sur la deuxième période. Comme on part de très loin et de très bas avec Mario Balotelli, on peut se dire que ces 45 premières minutes sont une belle promesse, mais ça manque encore un peu de concret et de conviction attention sur la durée.
Bien, mais peut mieux faire peut-être. Rudy sur la page Facebook nous dit Balotelli inexistant. C'est un peu dur ça quand même, Patrice.
Non, pas inexistant, mais tu sens qu'il n'est pas encore, il est pas encore au top physiquement. Il a fait une première mi-temps intéressante. Comme le soulignait Vivien, il a fait des choses voilà, qu'on attend de Mario Balotelli. Le replacement défensif, l'envie, la grinta, voilà, la prise de décision, la prise de risque. Donc il a fait tout ça. En deuxième mi-temps, quand il a commencé à plonger physiquement avec l'équipe, ben, il est retourné dans ses travers, un petit peu de dézonné, de partir sur le côté, alors qu'on l'attend pas du tout là. On a besoin de lui dans l'axe. Et voilà, il a essayé de se rassurer sur certaines choses, des drives, des machins, mais il est pas encore au niveau physique pour les réussir et les conclure. Donc, on attend mieux de Mario, bien sûr, mais je pense qu'il est sur la bonne voie maintenant. C'est pas encore assez suffisant.
Alors Mario est revenu en meilleure forme, en tout cas qu'en début de saison. Dangereux, on l'a dit en première période. Précieux aussi sur les coups de pied arrêtés, hein, où il a été chaque fois présent pour repousser les centres marseillais. Dante, le capitaine de l'OGC Nice, juge la prestation de l'Italien.
Il a beaucoup travaillé ces deux dernières semaines. Il a tout fait pour. Il a baissé son poids. On avait une challenge et puis c'est bien. Il a fait des efforts. Je pense qu'il est dans la bonne voie, malgré qu'il n'a pas marqué de but. Mais c'est un gars toujours dangereux. C'est un gars qui porte l'équipe devant. Donc voilà. Là, on l'a retrouvé le vrai. Et c'est ça qu'on veut qu'il continue comme ça jusqu'à la fin de saison.
Notamment défensivement, sur les coups de pied arrêtés, c'est lui qui a quasiment tous repoussé.
Oui, c'est des trucs importants aussi, on ne se rend pas compte, mais il était concentré, il parlait avec l'équipe. C'est bien, je pense que voilà, il est avec nous entier. Surtout aujourd'hui, il avait vraiment envie de faire un gros match. C'est dommage qu'il n'a pas pu marquer son but, mais on est content de sa progression par rapport à la forme qu'il avait, arrivé après les vacances.
Alors, à ses côtés, il y avait aussi Alan Saint-Maximin, attaquant du gym, voilà, qui juge lui aussi le retour de Mario.
Il a essayé de jouer avec ses qualités, il a eu un face-à-face avec le gardien, ça aurait pu tourner en sa faveur. Après, c'était, on va dire, son premier match depuis qu'il est vraiment, vraiment en forme. Je sais que dans les matchs à venir, il va vous montrer ce dont il est capable.
Voilà, plein de promesses à Vivien Seller, hein, qu'on entend Dante et également Alain Saint-Maximin sur Mario Balotelli. Patrick Vira le répète très souvent et ça va encore prendre du temps.
Ouais, je pense. Après, je serais quand même curieux de voir combien de temps va nous sortir l'argument qui est pour le moment recevable de la condition physique. Patrice disait il n'est pas encore tout à fait prêt physiquement, mais est-ce qu'il est prêt aussi moralement, mentalement à se faire mal, à vouloir repartir sur une vraie nouvelle saison, un vrai nouvel épisode avec l'OGC Nice? On peut encore attendre et accepter, je pense, l'argument de la préparation physique, mais ça veut aussi dire que Mario Balotelli, s'il met peut-être pas à 100%, s'il n'est pas encore affûté, parce que ça fait quand même un petit moment, que la saison a repris, même si on sait qu'il a repris en retard, qu'il a été suspendu et tous ces arguments sont recevables. Voilà. Après, je trouve que passé un moment, il faudra plus, difficilement mettre en avant l'argument physique et il faudra se poser la question, est-ce que Mario Balotelli veut vraiment se donner à fond, et dans quelques semaines, on aura la réponse.
Alors, dans le foot, on sait qu'il y a beaucoup de rumeurs, Patrice, c'est une rumeur qui revient beaucoup, elle est sans doute pas fondée, mais de dire que Mario pourrait partir cet hiver, par exemple.
Ouais, c'est vrai. On en parle souvent. Il y a même des pistes, je ne les dis pas, non ?
Notamment dans les pays exotiques.
Ouais, il parlait de Turquie.
Turquie, voilà, la Chine.
Il penserait à Patrice pour remplacer Mario, apparemment.
Non, physiquement, c'est pas ça. Il y aura au moins 5-6 ans de travail.
On a l'impression que s'il ne se passe pas grand-chose d'ici là, ça pourrait arriver, finalement.
Ouais, mais après, est-ce que c'est une bonne solution? Qui tu vas prendre derrière? Si tu le romancelles, c'est pour qu'il reparte en décembre, il y a aucun intérêt, quoi. Il faut qu'il fasse la saison avec nous et que derrière, il nous soit utile. Donc, moi, je pense qu'il serait bien qu'il soit au top et qu'il reste à Nice.
Viens.
Ouais, après c'est une question qu'on peut se poser. Faudra voir aussi à ce moment-là, comme tu dis, s'il a jamais été performant depuis le début de saison, j'entends, et qu'il coûte quand même très cher au gym. Est-ce qu'il vaudra pas mieux chercher une autre piste? Après, comme dit Patrice, les pistes à ce mercato hivernal seront pas forcément faciles à trouver. Il faut attendre. On peut, et puis on n'a pas trop le choix entre guillemets d'être encore patient avec Mario Balotelli parce qu'on sait le talent qu'il a. Mais c'est une question qui pourra se poser à l'avenir d'ici là, très vite.
100% Aiglon, toute l'actualité de l'OGC Nice.
Tiens, notez aussi un autre rendez-vous avec le gym au-delà de cette collecte, hein, de sang rouge et noir qui a lieu donc à partir de demain jusqu'à jeudi de 13h à 18h30. C'est place Masséna, c'est avec le gym, c'est avec France Bleu, voilà, dans le cadre du programme citoyen du club azurien, avec les anciens aussi qui sont souvent là. Patrice, tu as souvent été là.
Ouais, l'année dernière on l'a fait. Voilà. Je crois que cette année c'est le club qui prend le relais. Ouais.
Voilà. Et du coup, eh bien, il y aura aussi un autre événement ce mercredi à Saint-Martin-Vésubie avec le village OGC Nice qui se déplace après Drape l'étape après la vallée du Paillon, eh bien, direction donc Saint-Martin-Vésubie, ce mercredi de 14h à 18h avec de nombreuses animations. Il y aura des joueurs, il y aura des anciens aussi qui seront présents pour eh bien, signer des dédicaces. Donc vous retrouvez toutes les infos sur le site de l'OGC Nice. Dans un instant, on va retrouver Laurent Barra qui nous parle de Mario Balotelli avec
sa mauvaise
foi habituelle.
Baratesque.
Voilà. Laurent Barra qui nous parlera d'attaquant italien. Et puis on évoquera également aussi le prochain match, déplacement des Aiglons à Bordeaux. Ce sera ce dimanche, un match que vous pourrez vivre en intégralité évidemment sur France Bleu Azur.
100% Aiglon, toute l'actualité de l'OGC Nice. France Bleu. En novembre, au Casino de Beaulieu-sur-Mer, votre meilleur coup sera de profiter du premier festival, la Quinte Artistique. Un week-end de concerts et de spectacles d'humour. Vendredi 9 novembre, Igitt et Jérémy Frérot. Samedi 10 novembre, Madame Monsieur et Ronan Luce. Et
moi je suis un homme.
Dimanche 11 novembre, l'humour de Vérino.
Ça sent le bonheur à plein nez.
France Bleu Azur vous invite à tous les événements de la Côte d'Azur.
On en parle.
Le passage au prélèvement de l'impôt à la source en janvier soulève beaucoup de questions. On y répond aujourd'hui avec le ministère de l'Action et des Comptes Publics et Marie-André, porte-parole de la mission prélèvement à la source. Bonjour.
Bonjour.
Alors, c'est un gros changement pour les entreprises. Comment peuvent-elles préparer au mieux le passage au prélèvement à la source?
Alors justement, nous invitons toutes les entreprises à participer en ce moment à la phase de préfiguration.
La préfiguration, mais alors c'est quoi exactement?
Eh bien, les entreprises qui sont chargées de collecter l'impôt peuvent effectuer une simulation du prélèvement à la source sur les bulletins de paie d'octobre à décembre.
Une simulation, mais en quoi consiste-t-elle?
C'est comme pour le passage à l'euro, pour ceux qui s'en souviennent.
Oui.
Nous avions la double mention de notre salaire, en francs et en euros. Avec cette préfiguration, les employeurs qui le souhaitent pourront éditer une fiche de paie qui mentionnera, à titre indicatif, le taux de prélèvement à la source, ainsi que le montant prélevé. Mais personne ne sera prélevé.
Oui, ce n'est qu'une simulation, bien sûr. Merci beaucoup, Marie-André.
Plus d'infos sur impots.gouv.fr. On en parle.
France Bleu Azur.
France Bleu.
France Bleu Azur, 100% Aiglon. Barra, tacle.
18h42 et Laurent Barra ce soir tacle sa victime préférée, c'est Mario Balotelli. Bonsoir Laurent, bonjour.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. 5 sur 10. Voilà, c'est la note qu'a donné le journal L'Équipe ce matin à Super Mario Pippo Balotelli. 5 sur 10. C'est un scandale, c'est un scandale. Mm-hmm. Non, mais c'est énorme, c'est une trop grosse note. Quand je pense qu'à mon examen d'italien au baccalauréat, j'avais eu 7 sur 20, alors que je m'étais un milliard de fois plus battu que Balotelli, là, est possibile di pagare per favore, grazie mille, come, une couille, voilà. Non, mais de qui on se moque, là? Hier, contre l'OM, à domicile, match qu'il ne fallait absolument pas perdre, pas pour rester dans la course au titre, puisqu'on n'y sera jamais, je serai arrière grand-père, quand on sera champion. Non. Juste pour faire plaisir aux supporters qui, chaque match, sont présents, malgré la pauvreté du jeu proposé. Eh bien, alors lui, lymphatique, râleur, pas foutu de rester une fois à la pointe de l'attaque, allant se cacher à droite, une fois à gauche, enfin, c'est une sorte de Macron footballistique, quoi. Pippo râle tout le temps et ne s'entend pas avec Alan Saint-Maximin. Pourtant, excellent joueur, Saint-Maximin, excellent joueur, à qui il ne manque, c'est vrai, JB, qu'une seule chose finalement, c'est de savoir marquer des buts. Hein. À titre d'exemple, c'est comme si on disait d'un comptable, il est très consciencieux, volontaire, mais il ne sait pas compter. C'est dommage. Non, c'est alarmant. Franchement, les gars, Vivien, c'est alarmant. Il n'y a rien. On a tout perdu. Tout ce qui faisait notre force, on l'a perdu. La grinta, le talent, l'imagination, Cosiello. Non, alors je sais, ne ressassons pas le passé, hein, les anciens ne sont plus là, les Ben Arfa, Dario, même Patou Albert Conti, dont les saucisses sont moins grillées que Balotelli. Et pour rester dans l'alimentaire, j'ai envie de faire ce petit trait d'humour. Voilà, ce matin, toute la ville de Nice à la Bella, tout un peuple, on a gros sur la patate. Allez, Issa.
Merci Laurent Barra. Bon, Laurent est un peu dur quand même avec Mario, hein, il est quand même un peu dur avec Mario.
Surtout qu'il disait il s'est caché sur les côtés. Bon, après ça reste Laurent avec son trait d'humour habituel, mais c'est ce que soulignait l'équipe et ce qui était plutôt vrai, je trouve. Aller sur les côtés, c'était aussi une volonté de dézoner, d'essayer de toucher des ballons. C'était pas toujours productif, mais Mario Balotelli a souvent tendance à rester dans l'axe en point d'ancrage et à attendre que les ballons viennent à lui. Pour une fois, on peut pas lui reprocher de ne pas avoir au moins en partie essayé sur ce match-là, en tout cas.
Et on l'a vu, hein, notamment Patrice, rapidement, hein, on a vu Mario notamment sur le côté gauche, etc. Ça a pas mal permuté les avant-centres hier.
Ouais, je pense que le plus qui a été dans l'axe, c'était Mizian, sur ce match-là.
Et Mario qui a été un petit peu moins, et un petit peu moins aussi surtout en seconde période. Je me rappelle cette action notamment de Danilo qui venait de rentrer à côté gauche. Laurent parlait de Mario Balotelli un peu râleur, et c'est vrai qu'il réclamait le ballon, il l'a pas eu, il y a eu un contre, Danilo a poursuivi l'action, et malheureusement Mario n'était pas au point de pénalty, où il aurait pu recevoir un centre.
Exactement.
Il faut qu'il progresse là-dessus, mais Patrick Vieira nous l'a dit dans l'avant-match, c'est compliqué pour Mario, il était déjà comme ça à 16 ans, c'est compliqué de progresser là-dessus.
Et surtout quand un joueur comme lui n'a pas de résultat, c'est-à-dire qu'il marque pas de but, il s'impatiente, et quand tu t'impatientes, tu râles, et quand tu râles, c'est pas bon, et quand tu es pas bon, ben, tout se retourne contre toi. Donc, c'est un joueur qui doit se concentrer sur l'essentiel, reprendre les bases, comme beaucoup de joueurs dans l'équipe, et penser à l'efficacité. Donc, c'est tout.
Allez, il y a Renaud, là, qui était aussi avec nous sur la page Facebook, qui nous dit, allez, si on veut rester positif, c'est que le championnat est assez improbable, avec toutes les équipes qui peuvent se battre chaque week-end, hormis Paris, évidemment. C'est vrai que, il y a pas trop de logique pour l'instant en Ligue 1 après 10 journées.
18h-19h, 100% Aiglon, l'émission.
Allez, encore un quart d'heure dans le temps réglementaire de cette émission. 100% Aiglon vous attend au 04 93 82 03 04, notamment pour parler du match de Bordeaux. Comment vous le sentez, ce déplacement en Gironde? On vous attend, appelez-nous, dites-le nous, pour parler de la suite du championnat. Ce sera la 11e journée. L'OGC Nice en déplacement à Bordeaux. Courte pause en musique sur France Bleu Azur. Et on se retrouvera également avec notre confrère de 20 minutes Bordeaux, Clément Carpentier. On va lui passer un petit coup de fil.
18h-19h, 100% Aiglon, l'émission.
Around me, then you put your charms around me. We stare into each other's eyes, and what we see is no surprise. Got a feeling lost for treasure.
Makes me happy, makes me feel this way.
Nobody Loves Me Better. C'était Félix Jen avec Jasmine Thompson. Ça, c'est pas mal pour noyer son chagrin en boîte de nuit après une défaite dans le derby, hein, Patrice, non?
Et Nobody, voilà.
En boîte de nuit, déjà, on le dit plus trop, Jean-Baptiste.
Si. Vous dites quoi?
On dit quoi?
Du coup, en discothèque? Ça, c'est encore plus vieux.
En boîte tout court, ça peut être.
En boîte tout court, ok.
C'est lui
le jeune de la bande. Allez, 18h49 sur France Bleu Azur. On va parler des Girondins de Bordeaux dans un instant.
100% Aiglon, toute l'actualité de l'OGC Nice.
France Bleu.
Toute la journée, on fait la route ensemble sur France Bleu Azur.
Également, vous allez avoir quelques ralentissements sur l'avenue du Maréchal Juin et enfin sur l'avenue du Docteur Picot dans les deux sens.
À tout moment, vos infos routes en direct au 04 93 82 0304.
Les 27 et 28 octobre, Villeneuve-Loubet organise son 4e salon du livre d'histoire au pôle culturel Auguste Escoffier. Invité d'honneur, Gilles Kepel. Rencontrez une cinquantaine d'auteurs essayistes, biographes, romanciers comme François Kersaudy, Jean-François Kahn, Didier Le Fur, Virginie Giraud, Vladimir Fedorovski. L'unique salon du livre d'histoire sur la Côte d'Azur, les 27 et 28 octobre à Villeneuve-Loubet, pôle culturel Auguste Escoffier, de 10h à 19h. Entrée libre, programme complet sur villeneuveloubet.fr.
Commerçant, artisan, libéral, agriculteur, chef d'entreprise, on se sent parfois seul face aux obligations. Assurer son personnel, ses biens, son activité. Votre agent général d'assurance est à vos côtés pour vous aider dans la vie de l'entreprise. Qui mieux qu'un entrepreneur peut conseiller un autre entrepreneur? Car votre histoire, c'est aussi notre histoire. Agent général d'assurance, on assure mieux quand on connaît bien.
18h-19h, 100% Aiglon, l'émission.
Avec Patrice Alberganti, ancien jour du gym, consultant France Bleu Azur et vient de la rédaction de France Bleu. Et on va passer un coup de fil à notre confrère de 20 minutes Bordeaux, direction la Gironde, avec Clément Carpentier. Bonsoir Clément.
Bonsoir Jean-Baptiste.
Alors comment vont les Girondins de Bordeaux, 8e de Ligue 1 et qui viennent de s'incliner ce week-end à 2-0 à Montpellier?
Alors déjà quand même bien mieux qu'à la fin du mois d'août, puisqu'on rappelle que les Girondins étaient 19e du classement après 4 matchs et malgré une qualification pour les phases de poule de la Ligue Europa. Oui. Mais ça va un peu moins bien, comme vous l'avez dit, puisque ce week-end ils se sont inclinés à Montpellier. Une rechute, hein, on peut dire, pour les Girondins après la trêve internationale, puisqu'ils avaient enchaîné 5 matchs sans défaite en Ligue 1 depuis l'arrivée de Ricardo. Hein, Ricardo qui a changé pas mal de choses après le départ fracassant d'un certain Gustavo Poyet. Donc ça va mieux pour les Girondins de Bordeaux sur le long terme, mais à court terme, malheureusement, ils restent sur une défaite. Et puis, ils vont surtout jouer aussi un match important cette semaine au Zénith Saint-Pétersbourg pour la suite de leur parcours en Ligue Europa. Donc c'est une semaine, on va le dire, capitale pour les Girondins qui va arriver donc avec Cérus jeudi. Et les Niçois, donc, au Matmut Atlantique dès dimanche.
Ouais, mais ça peut être aussi une semaine compliquée. Hein. Le gym a connu ça la saison passée, un déplacement en Russie, c'est loin, c'est long. Ça peut peser dimanche, cette fatigue liée à la Coupe d'Europe, Clément?
Alors, tout à fait. Hein, vous connaissez ça par cœur, on peut dire, Jean-Baptiste. Oui. Et les Aiglons ont testé ça ces dernières saisons. C'est très compliqué pour les clubs français parce qu'il faut avoir évidemment une grande profondeur de banc. Et puis même, il y a la fatigue du déplacement. Alors là, je sais qu'ils vont revenir dans la nuit de jeudi à vendredi, à quelle heure, dans quel état, si c'est une nouvelle défaite contre le Zénith, il y aura aussi un petit impact psychologique puisque les Girondins de Bordeaux seront, bah, on peut le dire, pratiquement définitivement éliminés, hein, avec 3 défaites en 3 matchs. Donc on ne sait pas comment on va les retrouver vendredi matin avant le match de Nice et puis même sur le terrain dimanche. Bon, pour l'instant, il y a un turnover qui a été mis en place par Ricardo qui marche plus ou moins bien, puisque en Ligue Europa c'est très compliqué dans cette phase de poule, mais en Ligue 1 ça s'est plutôt bien passé ces dernières semaines, donc faudra voir. On sait qu'il y a aussi quelques joueurs qui peuvent revenir de blessures, notamment l'attaquant danois Cornelius qui a pris une place, on va dire, importante dans le système de jeu de Ricardo. On l'a vu, hein, ce week-end, il était absent à Montpellier et l'attaque bordelaise a tout simplement pas du tout pesé. Donc voilà, faudra voir l'état de fatigue et puis aussi les retours dans le groupe pour le match de Nice, on va dire.
On sait, Patrice, ça a souvent été compliqué pour le gym la saison passée, la fatigue. Et d'ailleurs, le gym avait été éliminé par le Lokomotiv Moscou en Russie au mois de février. Était rentré tard dans la nuit de Russie, même le lendemain. Ils avaient pris l'avion le lendemain, les les joueurs de l'OGC Nice. Avant un 0-0 insipide au Matmut Atlantique, c'était en février dernier. Cette fatigue, elle va forcément compter côté bordelais dimanche.
Ah oui, fatigue mentale, fatigue morale. Une fatigue dans tous les sens, c'est compliqué. Et surtout, comme le disait le confrère, la profondeur de banc est très très importante dans ses rotations et dans ses déplacements et ses matchs, ses répétitions de matchs. Donc forcément, tu le ressentiras. Ils ont commencé la saison comme nous l'année dernière en juillet. Ouais. Voilà, c'est très compliqué, c'est très long. Puis ils n'ont pas le banc nécessaire et il manque d'effectifs. Donc voilà, forcément, ils vont avoir un gros trou à un moment donné, Bordeaux.
Alors Bordeaux en difficulté en Europa League, Rennes aussi, on se moquait un peu de l'OGC Nice, mais la gym est quand même allé jusqu'en 6e de finale la saison passée, hein. C'est pas si facile que ça, hein, de se qualifier en Coupe d'Europe et le gym l'avait fait. Encore une question, Clément Carpentier, journaliste à 20 minutes Bordeaux, comment sont perçus les Niçois vu le giron d'une équipe entraînée par Patrick Vieira qui réalise un début de saison plutôt compliqué?
Bah, c'est difficile, hein, l'OGC Nice, on sait pas trop ce qu'ils valent aujourd'hui. C'est un peu compliqué, justement, ces Niçois, parce que ils sont capables de faire des grosses performances, comme du côté de Lyon, et puis aussi de perdre beaucoup de matchs à domicile. Donc, on sait pas trop contre quelle équipe les Girondins vont tomber. C'est un peu comme les Girondins aussi, ça peut très bien se passer comme contre Nantes où ils ont gagné 3-0 et puis ce week-end, match tout simplement du côté de Montpellier. Donc c'est vrai que c'est difficile à savoir entre ces deux équipes qui sortira vainqueur, en tout cas s'il y a un vainqueur dimanche. Et c'est vrai que ces Niçois, bah, ils font toujours peur parce que bah, y a notamment le retour de Mario Balotelli, alors même s'il n'est pas encore dans sa forme optimum, c'est toujours un très grand attaquant qui peut faire surtout la différence sur n'importe quel instant. Donc on ne sait pas trop comment ça va se passer. C'est quand même deux équipes qui jouent normalement la qualification en Coupe d'Europe pour la saison prochaine. Donc il faudra voir. On sait que les Niçois ont besoin de points. Donc il faudra aussi voir avec quelle stratégie ils viennent ici du côté de Bordeaux. Et on sait que Bordeaux aime aussi plutôt jouer contre des équipes qui ont la possession et jouer le contre avec leurs attaquants Kalou, Camano ou Caramo. Donc il faudra aussi voir quel style de match va s'installer très rapidement dans les premières minutes. Mais c'est vrai que c'est un match où c'est difficile de savoir qui sortira vainqueur comme beaucoup de matchs en Ligue 1.
C'est vrai cette saison. Merci Clément Carpentier, journaliste à 20 minutes Bordeaux. Et c'est Vivien Seller que vous retrouverez au Matmut Atlantique parce que c'est Vivien qui vous commentera ce match sur France Bleu Azur. Merci Clément, bonne soirée.
100% Aiglon, toute l'actualité de l'OGC Nice.
Alors Alexandre sur la page Facebook nous dit contre Bordeaux, défaite interdite. En plus Bordeaux qui se déplace donc en Russie ce jeudi pour y aller défier le Zénith. On me dit que c'est une équipe assez imprévisible, qui compte trop sur les exploits de Camano ou Caramo pour gagner des matchs. C'est un peu ça Vivien Seller?
C'est un petit peu ça et je les ai pas vus jouer hier contre Montpellier en fin d'après-midi, mais d'après les comptes rendus des confrères de la presse écrite, ça avait l'air de ressembler quand même de façon assez proche au match de Nice, c'est-à-dire un manque d'idées, un manque de créativité, pas un tir cadré en première période, une tristesse offensive. Et le confrère parlait de la victoire niçoise à Lyon. C'est vrai que j'y pensais pas tout à l'heure quand on parlait du manque d'envie ou de se faire mal du côté niçois. C'est peut-être sur ce genre de match qu'il faut s'appuyer. Au niveau qualité de jeu, c'était très faible côté niçois au Parc OL. Les Niçois n'avaient pas eu le ballon. Mais il y avait eu cette envie, ce don de soi de se battre. C'est un match où ils peuvent le jouer 10 fois, ils le perdront sûrement 9 fois, mais pas cette fois-là. Il avait fallu un Benitez héroïque. Voilà, tout avait été rassemblé côté niçois, mais tout avait été rassemblé parce que les Niçois avaient fait le maximum, parce qu'ils s'étaient donné, parce que Balotelli était impliqué sur ce match-là qui signait son retour. Donc voilà, ce match-là doit servir de base, en tout cas dans le don de soi et dans l'envie d'en faire plus.
Défaite interdite, il a raison Alexandre, Patrice, quand il écrit ça sur la page Facebook de France Bleu.
Ouais, de toute façon, maintenant, on va rentrer dans une période où les défaites vont faire mal. Donc, c'est sûr que défaite interdite à Bordeaux. Moi, j'ai envie de te dire, tu ramènes un point de Bordeaux, bon, ben, ça sera moindre mal. Après, la qualité de cette équipe bordelaise, moi, j'ai vu 3-4 matchs de Bordeaux. Et, effectivement, cette ligne d'attaque, Camano, Camaro et Kalou, très intéressante.
Camano.
Camaro, c'est le chanteur.
Camaro, c'était Femme Like You.
D'accord.
On reconnaît le mélomane des années 80.
Si tu veux, ouais. Donc 10. Si tu veux c'est 90. Donc si tu veux c'est ils comptent beaucoup sur ça. Après il y a de la vitesse, de la percussion dans cette équipe. Ils alternent le bon et le moins bon, mais il faut faire très attention au Matmut Atlantique parce que Bordeaux c'est pas forcément une mince affaire.
Carrément en boîte de nuit, hein, Vivien Seller. Et après à Bordeaux, il y aura la réception de la JOCR mercredi prochain, le 31 octobre. Ça sera sans Dante et Balotelli, à qui sont suspendus, ouais.
Non, mini parenthèse, ça peut être sympa parce que Jérémy Janot, l'ancien gardien stéphanois, est devenu entraîneur des gardiens auxerrois. Il se chauffait toujours avec la brigade sud devenue Populaire Sud. Et il y a eu un petit échange sur Twitter. Voilà, le retour risque d'être sympa parce qu'il jouait le jeu quand il se faisait chambrer. Ça peut être sympa, au moins pour ça.
On en reparlera la semaine prochaine dans 100% Aiglon. Ensuite, réception d'Amiens le 3 novembre et déplacement déplacement à Nîmes le 10 novembre avant une nouvelle trêve internationale, parce que oui, l'équipe de France va encore jouer en novembre, mais d'ici là il y aura d'autres magazines 100% Aiglon à vivre sur France Bleu Azur. Merci Patrice Alberganti.
Merci JB, merci à tous, merci à la technique.
Consultant France Bleu Azur, c'est Jean-Charles Aknin qui était à la réalisation ce soir. Merci Vivien Seller.
Merci JB, merci
Patrice. Et donc
Patrice,
on te retrouvera au Matmut Atlantique. J'aurai le plaisir d'animer cet après-midi foot depuis les studios de France Bleu Azur, place Grimaldi. C'est Vivien qui part en mission, voilà.
Mission 3 points.
Et ouais, la dernière fois, tu étais allé à Lyon, tu as gagné. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Merci à tous de votre fidélité. Merci à Guillaume qui était au standard ce soir. 100% Aiglon reviendra lundi prochain à 18h. C'est comme ça tous les lundis, 18h-19h. Émission à écouter également sur FranceBleu.fr, à podcaster sur votre smartphone si vous le voulez. Et puis, il y aura évidemment le match face à Bordeaux, 11e journée de Ligue 1. Rendez-vous dimanche à 17h sur France Bleu Azur pour Bordeaux-Nice.